1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Christelle Bernat, vous êtes maître de conférence à l'Institut protestant de théologie à la faculté de Montpellier. Vous y enseignez l'histoire du christianisme moderne. Nous avons évoqué dans une première partie les pré-réformateurs, ceux qui ont précédé Martin Luther. Vous avez évoqué, Christelle Bernat, Saint-Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, le mouvement de Valdo et enfin le théologien Wycliffe. Y a-t-il d'autres courants que vous aimeriez évoquer pour parler de la pré-réforme ?
Tout à fait. Et je crois qu'il nous faut bien comprendre tous ces préalables. Et peut-être avant même de passer au suivant, je voudrais encore prendre le temps en quelques mots de présenter Wycliffe du fait de l'importance de sa pensée dans la théologie luthérienne. Et dans cette longue chaîne, en quelque sorte, hein, réformiste, je dirais, avant d'être réformatrice. Je voudrais en parler parce que ce théologien d'Oxford considère aussi, hein, au-delà de la critique, on l'a vu la dernière fois, de l'Église instituée, la critique des sacrements, en particulier de la transsubstantiation, il considère aussi que l'Église visible a le devoir de mettre les livres saints à la disposition des fidèles. C'est-à-dire dans la langue entendue par les paroissiens. Ce qui revient à considérer la traduction et les traductions des Écritures comme indispensables, mais aussi à tenir les commentaires pour tout à fait secondaires. Et ce théologien d'Oxford, dans deux traités, le De Veritate Scriptura et Sancta, mais aussi le De Ecclesia, que l'historien Pierre Chonu range en particulier parmi les grands écrits de la pré-réforme anglaise, eh bien Wycliffe proclame, donc bien avant Luther, l'autorité suprême des Écritures. Il y affirme que cette autorité des Écritures, définie comme la parole de Dieu attestée par l'Esprit, est indépendante, et ce point est important, indépendante du magistère de l'Église institution, déconnectée en quelque sorte. À l'ordre établi jusque-là, qui plaçait donc l'Église entre Dieu et les Écritures, eh bien Wycliffe défend une nouvelle combinaison, si l'on peut dire, qui valorise Dieu et la Bible, hein, l'Église étant reléguée cette fois au dernier rang. De même, Wycliffe revendique aussi un inversement d'autorité qui assure, souligne Lilian Crété, que ce n'est pas l'Église, au fond, qui a fixé le sens de l'Écriture, mais plutôt la Bible, qui seule donne son autorité à l'Église. Donc, entre l'homme et l'Écriture, nul besoin de l'Église, en quelque sorte. Seule est nécessaire la parole. Et le témoignage du pape est tout à fait mineur dans cette opération, si l'on peut dire. L'Évangile l'emporte sur les gloses et sur la tradition. C'est là un argument repris ultérieurement par les réformateurs, Luther en tête. Mais je crois qu'au-delà de cela, l'Église visible a aussi, selon Wycliffe, une responsabilité. Et sa critique de l'Église romaine consiste à considérer que cette Église visible a jusque-là usurpé, accaparé ce droit, développer des institutions superflues, recommander des pratiques vaines et au fond s'est arrogé des pouvoirs tout à fait indus. Pour lui, le pape n'a pas d'autorité supérieure. Cela supposerait une vertu prééminente à l'image de celle de Pierre, alors que l'Église, dit-il, s'est fourvoyée dans le temporel depuis l'acte, nous l'avions vu la dernière fois, de donation de Constantin. Donc, l'éclair, pour lui, masque en quelque sorte l'Évangile sous l'enveloppe du latin et de la glose. Il nous faut aussi peut-être ajouter à ces griefs éloquents dans notre approche du luthéranisme sa critique virulente des indulgences qui achève de convaincre de la filiation de la réforme avec le wycliffisme qui considère en ce domaine, et cela aussi dès avant Luther, qu'un péché ne peut être pardonné sans qu'il y ait expiation, c'est-à-dire sans qu'il y ait repentance et pénitence, et au fond que seul Dieu est en mesure de pardonner. Autant, me semble-t-il, de critiques majeures contre le monopole néfaste, en quelque sorte, de l'Église établie, et en faveur de l'émancipation de la communauté chrétienne, qui, formulée à la fin du XIVe siècle, traverse ensuite le XVe et le XVIe, jusqu'à l'idéologie réformatrice. La proximité des thèmes Wycliffite avec les principes valorisés par la réforme est à ce point manifeste que plusieurs historiens, notamment nos collègues médiévistes, y ont vu une filiation majeure. Et cela pour dire que rien, absolument rien ne commence en 1517, mais bien au contraire, dès cette période extrêmement riche, cette période médiévale. Au contraire, hein, on a vu même que la contiguïté entre le wycliffisme et le luthéranisme est telle que Francis Rapp considère que Wycliffe n'est pas, à vrai dire, un précurseur du protestantisme, mais qu'il en est, avec un siècle et demi d'avance, le premier penseur, ni plus ni moins. Hein. Ceci dit, disons-le d'emblée, la révolution wycliffite, bâillonnée, n'a été que très tardivement féconde, seulement après avoir été transplantée sur le continent, en particulier en Bohême, où sa doctrine passe, au cours du XVe siècle, du domaine de la théorie, hein, et du milieu érudit, en quelque sorte, savant, théologien, mais relativement restreint, au domaine de la réalité, via un autre mouvement important, qu'est le mouvement hussite et le mouvement de Jean Hus. Ce hussisme, qui tire son nom du réformateur tchèque, est lui-même la résultante d'un mouvement de réforme amorcé au milieu du XIVe siècle, sous l'égide de Milik et de Janov, qui, eux aussi, ont distingué très nettement l'Église visible de l'Église invisible, selon eux, seule Église pure formée, hein, de la communion des saints. Et ce courant se singularise par ses exhortations à la fréquentation assidue des saintes écritures. C'est là un point important également dans ce processus. Et c'est en pénétrant dans les milieux universitaires pragois et en rencontrant le wycliffisme que ce mouvement en vient à se transformer progressivement en une véritable révolution religieuse qui entend s'affranchir et renverser les structures ecclésiales traditionnelles. Abandonnant l'idée d'une possible réforme qui interne à l'Église, il est clair que ses successeurs en viennent à mener une guerre déclarée à cette hiérarchie ecclésiale romaine. Et Hus, qui est alors prêtre et doyen à la faculté de théologie de Prague, eh bien, se met à revendiquer le prêche en langue tchèque et offre aux auditoires les idées wycliffites qui, jusque-là, n'étaient pas sorties du cercle étroit des savants. Cette révolution hussite, elle est en effet tout à fait déterminante. Elle constitue, elle aussi, un jalon dans l'élaboration du processus de la réformation. Pourquoi ? Eh bien, dans la mesure où les thèses de Hus, imprégnées de celles de Wycliffe, sont en partie reprises par Luther lui-même. Et on y décèle des principes forts que l'on retrouve ensuite dans la réforme. D'une part, l'opposition antipontificale, d'autre part, la défense de la prédication en langue vernaculaire, mais aussi, pour la première fois, la communion sous les deux espèces, hein, c'est-à-dire qu'on n'entend plus priver les fidèles de la coupe, qui était jusque-là réservée uniquement aux prêtres. Je parlais de principes forts qu'on retrouve ultérieurement, c'est aussi la distinction, on l'a dit plusieurs fois, de l'Église visible et invisible, mais aussi l'interprétation de l'Église comme communauté des élus. L'apport hussite est décisif à divers titres, de par sa critique contre le vice et la pratique des indulgences, de même par sa mise en doute de l'utilité d'un chef d'église et sa déconsidération de la papauté, mais aussi de par sa défense de la prédication en tchèque, son aspiration à une dévotion christocentrique, proche de ce que développera Luther, et une piété nourrie en particulier par la lecture personnelle des Écritures et l'affirmation d'une prédication qui est jugée supérieure, hein, à la liturgie. Autre point important pour nous, c'est qu'en 1412, tandis qu'il se voit excommunié, sans avoir pu se défendre, Hus lance un célèbre appel, hein, l'appel à Jésus-Christ, dans lequel il pose Dieu en juge suprême des croyants, supérieur en quelque sorte au prince, quel qu'il soit, et bien sûr supérieur à l'évêque de Rome. Donc avant de périr sur le bûcher en 1415, Hus entend dénoncer en particulier la tyrannie de la papauté et la façon dont elle s'est fourvoyée. Ce qu'il fait dans un tractatus, hein, son De Ecclesia, et cet ouvrage qui est vraisemblablement rédigé en 1412, eh bien, est en réalité publié un siècle plus tard, en 1520, à Haguenau, par un homme qui nous intéresse au plus haut point, à savoir Martin Luther en personne. Hein? Donc il y a là une filiation directe. Mais si l'on voulait ajouter encore à ces mouvements, il faut aussi dire que Luther est empreint du courant de la dévotion moderne. La Devotio Moderna désigne un mouvement de réforme parmi les laïcs et un courant de spiritualité chrétienne basé notamment sur une approche sensible et peut-être davantage intimiste de la foi. Ce mouvement relève d'une spiritualité en réalité assez affective, d'abord influencée notamment par les mystiques rhénans, qu'il s'agisse de Suzeau, de Maître Eckhart ou de Ruysbroeck. C'est un courant très influent dans la mesure où il privilégie la foi sur la raison comme moyen d'accès à Dieu. Et dès le XIVe, la Devotio Moderna en appelle à atteindre le divin par le sentiment. Maître Eckhart et son disciple, Ruysbroeck, préconisent ni œuvre ni image, mais une sorte d'état de vide afin de mieux s'attacher aux vertus qui font le bon chrétien. Surtout, ils vont introduire l'idée forte d'un combat, un combat pour s'ouvrir à Dieu, faisant alors de la religion une expérience vitale qui en vient à rejeter les rites mécaniques proposés et encadrés par l'Église instituée. Enfin, si l'on veut compléter ce volet, retenons que Luther est aussi un homme de son temps qui emprunte le sentier de la réforme, tandis que l'humanisme chrétien a bouleversé la pratique de l'exégèse, court-circuitant en quelque sorte la tradition et l'autorité des pères, engageant les théologiens notamment à s'emparer des textes originels, c'est-à-dire des textes grecs et hébreux, sans plus s'en remettre aveuglément à la traduction latine de la Vulgate, autrement dit à l'autorité reçue, et en s'affranchissant des commentaires cumulatifs qui en auraient altéré le sens profond. Les humanistes aspirent notamment à extraire les Écritures de la gangue scolastique à laquelle ils reprochent une exégèse mécanique de la Bible, propice à en ternir l'éclat et en amoindrir le souffle. Donc Luther bénéficie de l'effet de cette révolution intellectuelle exégétique qui, en retournant aux Écritures, entend en quelque sorte trouver le fondement et le moteur de la foi.
Autant dire, Christelle Bernat, que si Luther incarne la réforme, il se présente en réalité comme un homme de synthèse qui bénéficie d'un réformisme multiséculaire et d'une approche scripturaire renouvelée par la critique textuelle émanant des milieux humanistes. Merci Christelle Bernat.
Merci à vous.
Émission produite par FM+, 91 FM à Montpellier.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.